pied à l'étrier pour lancer ensuite la réflexion collective. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un mythe qui est centré sur un symbole. Ce mythe, c'est le mythe de l'existence d'un animal fantastique, et plus exactement d'un oiseau fantastique qu'on appelle le phénix. Immédiatement, lorsqu'on dit un oiseau, on fait référence à un être ailé. C'est une dimension importante du mythe. À chaque fois que dans tel ou tel mythe, un oiseau est mentionné, on sait qu'avec l'oiseau qui a des ailes et qui se trouve donc dans le ciel, dont le lieu est le ciel, on va avoir affaire à la mention de réalité d'ordre supérieur, d'ordre céleste. Voilà, donc là on a affaire à un oiseau dont le mythe est très ancien, dont le mythe est, je dirais, à peu près universel. Je ne vais pas vous faire évidemment tout l'historique du mythe, ne serait-ce que parce qu'un mythe n'a pas d'histoire. Plus exactement, un mythe se perd par définition dans la nuit des temps, sans auteur précis, sans origine précise, circulant dans l'humanité comme un récit qui mobilise des grandes images surgies d'on ne sait où. Bon. Je ne vais pas vous faire le récit complet des versions de ce mythe qui ont circulé ici et là. Si vous voulez avoir le détail de cette histoire du phénix, je vous conseille ce livre qui est une merveille, véritablement, qui s'appelle Le Bestiaire du Christ. C'est l'œuvre d'un symboliste du 19e siècle qui s'appelait Louis Charbonneau-Lassé, qui a recueilli dans l'ensemble du monde chrétien tous les symboles végétaux, animaux et géométriques du Christ qui ont été mobilisés par le christianisme tout au long des siècles. Et parmi ces figures symboliques du Christ, végétales et là en l'occurrence animales, figure le phénix. Le phénix qui a été donc repris par la symbolique chrétienne pour symboliser la résurrection, on va voir pourquoi, et alors même que ce symbole était beaucoup plus ancien que le christianisme. C'est un symbole qui se trouvait déjà à Rome, c'est un symbole qui se trouvait déjà en Grèce, c'est un symbole qui se trouvait déjà en Égypte, dans l'Égypte ancienne, c'est un symbole qu'on retrouve également jusqu'en Chine. Et Louis Charbonneau-Lassé fait comme ça la généalogie de cette image, en nous montrant comment, sous quelle forme particulière, avec quelle spécificité particulière, on peut le retrouver en Chine, en Égypte, en Grèce, à Rome, dans la Rome antique, et puis ensuite jusqu'au christianisme et jusqu'à l'époque médiévale, parce qu'après ça fait partie de ces symboles qui ont été gravés dans la pierre des cathédrales et puis dont le sens et même la conscience s'est petit à petit, hélas, perdu. Voilà. Et là justement, vous avez une figuration symbolique chrétienne qui est prise dans la pierre de je ne sais quelle cathédrale, mais c'est quelque chose qui est très classique et que vous pouvez, si vous faites attention, repérer à pas mal d'endroits. Voilà. Alors, qu'est-ce que le phénix ? Le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Il est donc toujours figuré, de manière plus ou moins allégorique ou plus ou moins figurative, il est toujours figuré comme se tenant sur un bûcher dans lequel il va se consumer. Donc là, vous voyez véritablement le bûcher. Et le phénix va se consumer dans le bûcher, mais miracle de sa nature, eh bien, le bûcher qui va le consumer et le réduire à l'état de cendre va lui permettre en même temps de se régénérer. De là l'expression, toujours au sujet du phénix, d'un oiseau qui renaît de ses cendres et d'un oiseau qu'on appelle aussi, Gérard vous lira un poème à ce sujet, d'un oiseau qu'on désigne aussi comme l'oiseau de feu, pour la même raison. L'oiseau de feu qui est toujours figuré comme étant empourpré, c'est-à-dire embrasé, souvent avec un grand luxe de couleurs extrêmement, extrêmement puissantes et un peu terrifiantes, qui sont celles du feu. Voilà. Là, il y a dans la pierre, dans la couleur de la pierre, évidemment, une sobriété qui ne donne pas l'idée de quelque chose d'empourpré. Alors, c'est un symbolisme complexe. Plus complexe qu'il en a l'air. Parce que d'abord, c'est un oiseau, on dit couramment, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Mais la signification qui est donnée à cela, et ça vous pourrez le lire dans plusieurs textes qui sont ici, il y a par exemple un texte d'un auteur chrétien des premiers siècles qui s'appelait Tertullien, qui a vécu au deuxième siècle de notre ère. C'était un moine chrétien, il était converti au christianisme, c'est un peu comme saint Augustin un peu plus tard. Il était païen, il était de Carthage, l'ancienne Carthage, donc dans l'actuelle Tunisie. Et Tertullien raconte le mythe du cimorgue, qui est un autre oiseau mythique. Le mythe du phénix en disant: je veux parler de cet oiseau particulier à l'Orient. Donc là, il écrit au deuxième siècle. Je veux parler de cet oiseau particulier à l'Orient, célèbre parce qu'il est sans pareil, phénoménal, parce qu'il est à lui-même sa postérité. Alors voilà, il va continuer, mais voilà ce que signifie le fait qu'il renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas besoin d'une cause extérieure pour renaître de lui-même. Il a la capacité à se donner la vie à lui-même et à renaître toujours identique à lui-même et toujours différent de lui-même. Et cet oiseau qui, préparant volontiers ses propres funérailles, se renouvelle dans sa mort, héritier et successeur de lui-même, héritier et successeur de lui-même, nouveau phénix là où il n'y en a plus, toujours lui, quoi qu'il ait cessé d'être, toujours semblable, quoique différent. Voilà. Et après, évidemment, en tant qu'auteur chrétien, mais ça vous irez le découvrir, il en fait véritablement l'oiseau christique, l'oiseau symbolique de la résurrection et de la promesse de résurrection faite par le Christ. Je ne m'attarde pas sur cette dimension-là. Si vous voulez, il y a des passages très intéressants dans la page d'avant qui sont pris à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et notamment dans les épîtres de Paul. Bon, bref. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que avec le phénix, on a l'image d'un éternel retour. Et on a l'image de cet éternel retour comme d'une puissance, comme de quelque chose de positif, comme de cette capacité à se régénérer et à renaître indéfiniment. Et spontanément, ce n'est pas cette image qu'on a de l'éternel retour. On perçoit peut-être plus volontiers l'éternel retour comme quelque chose qui correspond à un recommencement, c'est-à-dire la nécessité de recommencer, et l'idée qu'il y a dans la vie humaine, en particulier dans la condition humaine, quelque chose qui reste toujours inachevé, toujours à refaire, hein, comme si on repartait toujours de zéro sans atteindre véritablement à chaque fois son but. Bon. Et donc souvent l'éternel retour est considéré de manière négative. Par exemple, et là je fais un lien entre le mythe du phénix et un autre mythe très célèbre, c'est le cas dans le mythe grec de Sisyphe. Et je voudrais comparer les deux, parce que quand vous lisez attentivement le mythe de Sisyphe, qui présente l'éternel retour comme quelque chose de négatif, vous vous rendez compte qu'en fait, lorsqu'on lit le mythe au second degré, on retrouve quelque chose qui est présent dans le mythe du phénix, c'est-à-dire l'idée de l'éternel retour comme une opportunité et une capacité éternelle de régénération, comme une promesse d'immortalité, comme une promesse d'éternelle jeunesse. Vous connaissez tous le mythe de Sisyphe ou pas? Je vous le raconte rapidement. Sisyphe a échangé contre un dieu qui était le dieu fleuve. Asopos, il a échangé ce qu'il désirait. Il désirait trouver une source d'eau qui ne tarit jamais. Déjà, ça commence de manière particulière. Désirait trouver une source d'eau qui ne tarit jamais. Et il a échangé l'information dont il avait besoin, où est cette source, contre une indication qu'il a donnée au dieu fleuve Asopos. C'est-à-dire qu'il a révélé à Asopos où Zeus cacher la fille d'Asopos. Parce que Zeus, qui était amateur de femmes de manière vraiment indéfinie, hein, dans la mythologie grecque, avait ravi la fille d'Asopos, je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Et Asopos cherchait sa fille, le dieu fleuve cherchait sa fille, sans savoir où Zeus l'avait cachée. Donc il a dit à Oedipe, pas Oedipe, à Sisyphe, il lui a dit, si tu me dis où est ma fille, parce que je crois que tu le sais, moi je te dirai où est cette source qui ne tarit jamais. Alors Sisyphe lui a donné l'information, et l'autre lui a donné l'information. Mais du coup, Zeus était furieux. Zeus était furieux parce qu'il avait caché la fille d'Asopos et il voulait la garder pour lui, et Asopos est venu la récupérer. Donc Zeus a décidé de punir Sisyphe. Il a puni Sisyphe et pour le punir, il lui a envoyé Thanatos. Il lui a envoyé le dieu de la mort. Là aussi. Source qui ne tarit jamais, dieu fleuve. Sisyphe va se battre contre la mort. Donc il lui envoie Thanatos. Et Sisyphe, c'est une sorte d'Ulysse. C'est-à-dire qu'il est très malin. Il est doué de ce que les Grecs appelaient la métisse. Il est très rusé. Et donc Thanatos vient le voir pour l'emmener dans les enfers, mais Sisyphe lui dit, écoute, d'accord, je vais te suivre dans les enfers, mais regarde, moi j'invente beaucoup de choses. Je suis capable de fabriquer beaucoup de choses. Si tu veux, je te montre quelques-unes de mes inventions. Alors il prend Thanatos au jeu de la curiosité. Thanatos lui dit, d'accord. Et donc il lui montre un certain nombre d'objets. Donc Thanatos commence à s'émerveiller, etc. Puis à un moment donné, il lui dit, bah, regarde là, par exemple, j'ai fabriqué cet objet qui s'appelle des menottes. Donc Thanatos dit, ah oui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si tu veux, je vais te montrer. Et il lui attache les mains. Et donc il capture Thanatos, en fait. Et il s'enfuit. Et donc Zeus a échoué à punir Sisyphe. Mais Zeus, qui est quand même le dieu des dieux, hein, on ne rit pas avec le dieu des dieux, cette fois-ci se charge lui-même de l'affaire. Et il expédie, comment il s'appelle, Ulysse dans les enfers. Sisyphe. C'est marrant, je pense à Sisyphe, à Ulysse quand je pense à Sisyphe. Il expédie dans les enfers, dans le Tartare, dans l'Hadès, etc. Et là, il est condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne. Et dès qu'il a poussé le rocher en haut d'une montagne, en haut de la montagne, le rocher dévale à nouveau la pente et il est obligé de recommencer. Et il est condamné à ce châtiment à perpétuité, dirait-on aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, donc c'est que là, vous voyez, il y a vraiment à la fin cette image de l'éternel retour, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à double sens. Hier, on disait un symbole, un mythe, c'est un symbole, c'est un symbole mis en récit. Eh bien, c'est que là aussi, il y a un double sens. Le premier sens, c'est que le pauvre Sisyphe, il a été pris au piège de sa ruse et de ses manigances, et il a été maudit par Zeus. Mais en fait, il n'a pas été maudit. Parce que il cherchait quelque chose qui était la source qui ne tarit jamais. Il cherchait quelque chose qui allait lui permettre de vaincre la mort, qui lui permet de vaincre Thanatos. Et en fait, ce qui lui a été infligé apparemment comme un châtiment peut être compris en sens inverse comme la capacité perpétuelle à produire un effort. Donc, là encore, l'indice d'une vitalité qui ne s'use jamais. Et c'est en ce sens-là que le mythe de Sisyphe rejoint, malgré les apparences, ce mythe du phénix, c'est-à-dire tend à l'être humain l'image d'une capacité de se régénérer perpétuellement. Tend à l'être humain l'image d'une puissance qui ne s'use pas, d'une puissance d'être, d'une puissance d'agir, et tout à l'heure je disais d'une jeunesse qui ne s'use pas, mais qui se renouvelle continuellement. Et ce qui est intéressant dans le mythe du phénix, c'est que cette régénération se fait par le feu. Et là aussi, il y a un élément symbolique qui est très important. Pourquoi? Parce que le feu, si je le considère de manière littérale, non seulement le feu brûle, mais le feu dévore, le feu ravage. Le feu est ce qui, dans le monde, dans cette existence, détruit de la manière la plus radicale. La destruction par le feu est pire que tout. Et d'ailleurs, dans le symbole du phénix, le feu va réduire le phénix en cendres, c'est-à-dire il va le réduire à rien, poussière, devenir poussière. Dust. Bon. Mais il y a une indication dans le fait qu'un symbole a toujours deux faces et qu'il y aurait peut-être à chercher du côté du feu exactement l'inverse. C'est-à-dire, de même que le feu littéralement détruit radicalement, il y a peut-être la possibilité que le feu vivifie radicalement, régénère radicalement. Et voilà ce qui est offert à la méditation humaine à travers le symbole du phénix. C'est-à-dire la possibilité d'être immergé dans un feu qui ne nous détruit pas, mais qui nous vivifie. Voilà, je pense, ce qui s'offre à notre méditation. Avec cette idée traditionnelle, selon cette idée traditionnelle, que, en fait, là où est le mal, le feu qui est détruit, il y a peut-être le remède, c'est-à-dire le remède contre la mort. Là où est le poison, il y a l'antidote. Donc là où il y a, a priori, la menace d'une mort et d'une destruction qui est la plus radicale, il y a peut-être aussi en même temps la possibilité, le moyen, l'opportunité de quelque chose qui vivifie avec une puissance absolument extraordinaire. C'est l'histoire de l'humanité, avant même d'être l'objet d'une méditation pour la vie spirituelle de chacun. Qu'est-ce que l'homme a fait avec le feu ? Exactement ça. Il l'a apprivoisé, il l'a domestiqué, il l'a installé dans un foyer et il a construit autour de ce feu son foyer. C'est-à-dire qu'il a réussi à apprivoiser cette force de destruction pour en faire une source de chaleur, pour en faire une source de vie, pour en faire une source de sécurité. Vous voyez comment, d'une certaine façon, l'histoire de l'humanité fait pleinement justice au symbole du feu, puisque nous, les êtres humains, nous continuons d'avoir peur du feu, et nous continuons d'être menacés par le feu, mais en même temps, nous avons pu l'apprivoiser. Et je pense que c'est intéressant aussi parce que on peut méditer sur cette possibilité pour sa propre vie spirituelle. Comment faire du feu quelque chose qui nous vivifie ? Comment domestiquer le feu ? Comment apprivoiser l'énergie du feu ? Comment faire de l'énergie du feu quelque chose qui est vivifiant ? Ben, la langue française le dit, comme sans doute pas mal d'autres langues dans le monde. Quand on regarde quelqu'un qui a une vitalité particulière, on dit qu'il est animé d'un feu intérieur très puissant. Il a la flamme. Et il y a là peut-être donc une indication de la façon de devenir phénix, je dirais, de la façon d'apprivoiser le feu, de la façon de faire du feu un combustible ou un aliment de la vie spirituelle, en se demandant comment alimenter cette vie spirituelle par un feu intérieur, ou comment allumer en soi un feu intérieur, comment allumer en soi une flamme, et comment, une fois qu'elle est allumée, et à partir de quelle étincelle, comment entretenir ce feu tout au long d'une existence ? Parce qu'il y a des feux qui s'embrassent très vite et puis qui s'éteignent très très vite également. Vous voyez ? Voilà. Donc cette grande image mythique peut être un support de méditation, c'est-à-dire que je peux regarder ce phénix là. Vous voyez, je peux où il est. On peut regarder ce phénix toujours en miroir, hein, en se demandant s'il y a quelque chose qui brûle dans notre intériorité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle ?
Il y a une origine au mot phénix ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, Charbonneau-Lassé explore ça dans différentes langues, mais le phénix, le mot phénix lui-même viendrait plutôt des Grecs. Il dit, les Égyptiens l'appelaient le Bénou. Je sais pas, j'ai aucune connaissance évidemment dans la langue antique des Égyptiens. Il y avait un hiéroglyphe. En Chine, je ne sais pas. Mais le phénix, c'est pas du tout. Le mot lui-même n'est pas universel. Hein, voilà. C'est tout pour ce matin. Donc,
C'est juste, est-ce qu'il y a une différence un peu, le phénix en Chine? Je me dis parfois il y a des petites différences entre...
Tout à fait. Il y a des différences parce que dans les univers symboliques des différentes traditions, les symboles se mélangent pour se compléter. Alors par exemple, en Chine, le phénix, dans ses représentations, il est souvent indiscernable du dragon. C'est-à-dire, il va être, voilà, à tel ou tel endroit, il est associé à d'autres animaux symboliques. Par exemple, donc au niveau de l'Égypte ou de de cette zone berceau de beaucoup de civilisations qui est la Mésopotamie, il est associé à un symbole dont on avait déjà parlé ici au Sésame, qui est le symbole de l'ouroboros. L'ouroboros, c'est le serpent qui se dévore lui-même. Donc, il fait un anneau comme ça, et sa queue est dans sa gueule. Vous voyez, bon, ça peut être un bracelet. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec l'ouroboros, il y a une dimension littérale et une dimension symbolique. Littéralement, c'est un symbole négatif. Il se dévore lui-même. Hein, c'est-à-dire que il est tellement dans l'illusion qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se manger lui-même. Mais en fait, se nourrir de soi, c'est tirer de soi et uniquement de soi la substance de son existence. Donc en réalité, c'est tirer de soi, encore une fois, une vitalité infinie. Vous voyez? Et c'est à cause de cette conjonction symbolique que là vont être associés le phénix et l'ouroboros. Après, le phénix va être associé aussi à différents oiseaux, à l'aigle, etc. Peut-être Gérard?
Quelques questions générales. La différence entre, selon moi, entre le mythe de Sisyphe et le phénix, le mythe de Sisyphe réintroduit Sisyphe en permanence dans la temporalité. C'est-à-dire qu'il est en permanence condamné à repasser par le temps. Alors que le phénix, qui renaît de lui-même de ses cendres, brûle le temps par son propre feu intérieur et est dans l'éternité en permanence. C'est comme ça que moi je le dis.
Très bien.
Il y a une manière de travailler sur cet aspect intérieur qui fait que dans un état particulier, on sort du temps. On sort de Sisyphe qui pousse son rocher et qui. Parce que le rocher doit redescendre et remonter. Donc il y a une temporalité. Et finalement, la prison humaine, c'est le temps. Et le phénix renaît de ses cendres parce qu'il sort du temps. C'est le feu qui dévore le temps. Pour être dans l'instant. Et l'instant, c'est l'éternité.
Tu veux nous lire ton poème?
Oui. Alors, il faut que j'explique un petit peu quand même. Bon, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Oiseau de feu, il y a plusieurs années. Parce qu'il y a une dimension intéressante aussi dans l'oiseau de feu, c'est que dans beaucoup de traditions orientales, le cœur est le symbole de la vie, est le symbole de la présence de l'être. Et lorsque le cœur est embrasé par l'amour divin, il s'agite, et le cœur est, dans le corps humain, enveloppé par les poumons. Et la respiration s'accélère, et on a cette image de l'oiseau dont les ailes s'agitent. Hein, lorsqu'il est pris par cet embrasement spirituel. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de rassembler un certain nombre de textes de diverses traditions mystiques, du soufisme et du christianisme, pour les mettre en musique. Et donc, j'avais appelé ça l'oiseau de feu, musique et mystique d'Orient et d'Occident. Et puis récemment, j'ai écrit quelques poèmes que je vais publier bientôt, et le dernier poème, c'est l'oiseau de feu. Alors, je vais vous le lire, si vous voulez. Bon, c'est juste une
C'est une vision, hein. C'est pas... voilà. L'oiseau de feu. L'île par-delà les sept mers intérieures. Là est l'oiseau de feu, unique, resplendissant, aux mille couleurs. Posé sur l'arbre de jouvence, il se tient, immobile, aux aguets, vigie silencieuse, balayant l'horizon des quatre orients depuis le temps de l'origine. Ses ailes majestueuses ne se déploient que lorsque, venu du grand large, souffle le suave zéphyr de la beauté, l'âpre vent de la vérité ou l'impalpable brise du mystère. Quand le grand ciel reprend son haleine, l'oiseau de feu s'immobilise à nouveau, impassible, hiératique. Il veille, lui, le gardien du cœur du monde.
Merci. Ça veut dire quoi déjà hiératique ?
Hiératique, ça vient de sacré hieros, donc c'est immobile, mais avec une présence sacrée. Donc le rapport avec le phénix, je ne sais pas comment vous le voyez. Pour revenir à notre sujet.